Avertissement, le contenu qui suit ne conviendra pas à tous les auditeurs. Il peut contenir des scènes de violence ainsi qu'un langage cru. Veuillez procéder avec caution.
Salut et bienvenue à un autre épisode de Mauvais Augure, c'est moi votre hôte Frédéric Hiel. J'espère que vous vous portez bien. Et oui, aujourd'hui c'est une journée bien spéciale, c'est l'Halloween. Et j'ai décidé de vous compiler quelques petites histoires en lien avec l'événement. Si c'est pas déjà fait, allez écouter l'autre spécial Halloween que j'ai publié hier. Ça entoure la mort de Chris Jenkins. C'est pas un long épisode, mais il est intéressant. Bon, j'espère juste qu'il n'y aura pas trop d'écho dans l'enregistrement parce que la pièce où j'enregistre est rendue pas mal vide parce que je déménage à Vancouver dans 3 jours. Ouais, du gros changement. Mais je vous donne quand même 2 épisodes, même si je suis vraiment débordé avec la job et tout. En plus, au début, c'était pas vraiment ça que je voulais faire pour mon spécial d'Halloween. J'avais un autre sujet, mais j'ai vu qu'il y avait un gros podcast québécois qui faisait le même. Donc, j'ai décidé de changer de sujet et vous compléter plein de petites histoires. Comme ça, je me dis qu'il n'y a aucun podcast qui va avoir le même contenu. Bon, on va retourner sur l'Halloween. C'est ça, depuis que je suis jeune, moi, j'ai toujours été intrigué par l'étrange et l'obscur. Et je me souviens que j'ai toujours été fasciné par l'Halloween parce que je trouvais ça vraiment étrange que les gens étaient heureux, avaient du plaisir, pendant qu'il y avait des décorations qui représentaient la mort puis des affaires peurantes. Je trouvais ça quand même weird. C'était mon jour de fête préféré. C'est une journée entourée de mystères. La collecte de bonbons en faisant du porte-à-porte, avec de bons amis, se racontant des histoires, puis faisant des mauvais coups un peu. Encore aujourd'hui, je dois avouer que c'est ma fête préférée. Parce que les adultes, les jeunes, peuvent cacher leur identité derrière un costume et oublier qu'ils sont vraiment pour l'espace d'une journée. Et ça, sans se sentir jugé par les autres en plus. Je vais vous expliquer un peu les origines de l'Halloween, puis après on va tomber dans le vif du sujet, inquiétez-vous pas mes chers auditeurs. Les origines de l'Halloween, ça date vraiment pas d'hier, ça date même avant l'ère du petit Jésus. D'origine celtique, c'était une fête païenne nommée Samhain, qui veut dire la fin des récoltes ou le début de l'hiver. C'est un festival qui se produisait à la fin octobre, car semble-t-il que c'est la période de l'année où notre monde serait le plus en contact avec le monde des morts. C'est assez difficile de savoir exactement comment les gens célébraient la Samhain. La documentation est assez limitée car l'Église catholique interprétait très mal cette fête païenne et christianisera l'événement par la suite. Semble-t-il que les gens pratiquaient des rituels et offraient de la nourriture aux gens déguisés en saints qui faisaient du porte-à-porte. Aussi, les gens se déguisaient soit pour faire peur aux esprits malveillants ou pour ne pas être reconnus par ces derniers. C'est pas très clair, mais en plus datant d'une autre époque, c'était rempli de superstitions. Plus tard, le nom de la fête des morts, Samhain, sera changé pour All Hallows Even, qui se traduit pour la nuit de tous les saints. Ça, c'est sûrement au moment où que ça a été christianisé. Et plus tard, All Hallows Even sera modifié pour Halloween. Mais à notre époque, l'Halloween n'apporte pas seulement de la joie, du plaisir et des bonbons. Des actes horribles et sordides sont aussi commis en cette période de l'année. Et même que dans certaines villes, les autorités sont débordées dû à nette augmentation du crime. Donc soyez vigilants, si vous avez des enfants en bas âge, ne laissez pas passer l'Halloween sans la supervision d'un adulte. Il y a des tordus partout. Je vais vous raconter un événement personnel qui est arrivé quand je passais à l'Halloween. Je pense que j'avais 6-7 ans. J'ai été élevé dans un petit parc de maisons mobiles proche de Saint-Jean-sur-Richelieu, puis des tordus, il y en avait pas mal. Donc c'est ça, je suis avec quelques voisins. On fait du porte-à-porte pour récolter des bonbons. On est peut-être 5-6, puis c'est la sœur d'une de mes voisines qui est avec moi qui nous surveille. À un certain point, il y a un véhicule qui arrête à côté de nous autres, puis il offre des bonbons à mon amie de fille. Puis c'est bizarre, moi, sur le coup, dans ma tête, j'étais juste jaloux qu'il les offre juste à elle. Mais là, ça s'est passé tellement vite. C'est ça, elle s'est approchée du véhicule. Le gars, il a ouvert sa porte. La fille qui nous surveillait, ben, je dis la fille parce que c'est une adolescente. C'est ça, je sais pas trop qu'est-ce qu'elle faisait, mais elle a pas vu ça aller au début. Mais elle s'est retournée juste à temps, puis elle a commencé à gueuler. Le gars, il a fermé sa porte de char, puis il s'est poussé. Ça, c'est juste vous montrer comment ça arrive vite. Puis même si t'es élevé à pas parler aux étrangers, tu sais, moi, le réflexe dans ma tête, c'est que j'étais jaloux parce qu'il a pas offert des bonbons à moi. Ça aurait pu finir vraiment mal, cette histoire-là, mais au moins, à part gâcher le reste de notre soirée d'Halloween... Ma voisine est encore en vie, puis avec nous autres. Disons que cet événement-là m'a quand même assez marqué. Après, je faisais plus confiance à aucun étranger. Ça fait un peu bizarre de vous raconter ça, parce que je n'ai jamais reparlé à part le soir que c'est arrivé. Donc tout ça pour vous dire, faites attention à vous autres, puis laissez pas vos enfants sans surveillance. Ça arrive vite, puis ça peut arriver dans n'importe quel quartier. Donc, on va commencer avec les histoires que je vous ai compilées. Bon, pour mon premier cas, on s'en va en Pennsylvanie, à New Sewickley, le 20 octobre 2012. Une soirée d'Halloween se déroule chez les Grant. Rien d'extravagant, une petite réception familiale, avec un feu de foyer dans la cour arrière. Pendant que les adultes discutent, les plus jeunes s'amusent. Ouais, tout se passait bien, le monde avait bien du plaisir, jusqu'au moment où une petite fille de 9 ans qui s'amusait sur la colline, non loin de la maison, fut atteinte d'un projectile de fusil de calibre 12. Bon, je vais vous expliquer un peu les événements qui se sont produits pour en arriver là. Semble-t-il que c'est un simple accident, mais je trouve ça un peu louche par histoire, là. Donc, semble-t-il que dans les jours précédant la fête, les Grant avaient un problème avec des moufettes qui ont aperçu dans les environs. Donc, ce qui semble-t-il être arrivé, c'est que le soir de la réception, c'est aux alentours de 10h PM que Janet Grant est sûre d'avoir vu un putois rôder autour. C'est alors qu'elle demanda à son fils Thomas d'agripper le fusil et de tirer sur l'indésirable. Thomas, sans perdre un instant, s'exécuta, et à l'aide d'une lampe de poche que sa mère tenait, Thomas visa et tira un coup. La jeune fille, dont l'identité est restée confidentielle, était costumée d'un habit noir aini que d'un costume noir, qui est orné d'une plume ou d'un pompon blanc. C'est pas très clair. Donc c'est ça, Thomas, il a fait feu sur sa cousine de 9 ans, qui a mépris pour une moufette. En plus d'être très bien conscient qu'il y avait des voisins à une centaine de mètres de là. Bon, j'ai fait mes recherches. Une moufette adulte, ça peut peser, dépendamment des espèces, de 2 à 13 livres. Et un enfant de 9 ans, ça pèse environ 62 livres, ou 28 kg. Semble-t-il que l'alcool et la drogue ne seraient pas en cause. La jeune fille grièvement blessée a été transportée d'urgence en hélicoptère au centre hospitalier pour enfants de Pittsburgh. Atteint à l'épaule, au bras, au dos et au cou, son état a été stabilisé. Thomas Grant, 24 ans, tant qu'à lui, a été chargé de voies de fait graves mettant la vie d'autrui en danger. Mais les charges vont tomber après, puis il sera jugé simplement pour voies de fait. Bon, une petite tape ses doigts, il s'est vu juste imposer une probation de 2 ans lui interdisant de chasser. J'espère au moins qu'il n'avait pas le doigt d'avoir des armes à feu. En tout cas, c'était vraiment un accident, c'était vraiment un acte irresponsable. Il a fait feu dans une zone résidentielle, en pleine nuit. Moi, j'aurais interdit le droit d'utiliser une arme à feu pour le reste de sa vie. Puis tant qu'ailleurs, je pense que j'aurais imposé et tout un test chez l'optométriste peut-être. Parce que depuis quand, ouais, qu'un petit mammifère sauvage d'une dizaine d'années va s'approcher d'un endroit où il y a plein de monde à l'extérieur. Pour ma deuxième histoire, on se dirige vers New York, dans le Bronx, en 1998, le soir de l'Halloween. Carl Jackson, qui est alors âgé de 21 ans, est un programmeur informatique. Décrit par ses proches comme quelqu'un de tranquille et réservé, c'est un homme qui, même étant plus jeune, n'appréciait pas vraiment l'Halloween, dû au danger qui augmentait dans son quartier en cette période de l'année. Mais cette année-là, Carl voulut faire un effort pour faire plaisir à sa conjointe Darlene. C'est dans la soirée que Carl, au volant de sa voiture, accompagné de sa conjointe, allait rechercher le fils de Darlene, qui était alors âgé de 9 ans. Le jeune avait passé la soirée dans une fête pour enfants. Carl et Darlene avaient planifié de déposer le jeune chez la gardienne pour ensuite se diriger dans une soirée. Sur la route du retour, le véhicule de Carl fut atteint d'un projectile. Heureusement, rien de grave, ce n'était qu'un œuf. De jeunes adolescents s'amusaient à lancer des œufs sur les véhicules qui passaient près d'eux. Carl Jackson, un peu offusqué, décida alors de stationner sa voiture et d'aller dire 2 mots à ses fauteurs de trouble. Une altercation s'en est suivie, et peu de temps après, Carl était de retour à sa voiture. Il reprit alors la route. C'est seulement quelques blocs plus loin qu'un véhicule le rattrapa, et au même moment, un coup de feu retentit dans l'air. C'est comme ça qu'à 11h15 PM, Carl Jackson était entre la vie et la mort. Atteint d'une balle dans la tête, il sera transporté aux urgences du centre médical de Jacoby, mais malheureusement, il succombera à ses blessures très peu de temps après. Le suspect Curtis Sterling, alors âgé de 17 ans, fut arrêté. Il fut jugé en tant qu'adulte et se vit imposer une peine de 20 ans de prison. Et ce cher Curtis, si vous n'avez pas fait le lien, c'est un des jeunes qui lançait des œufs sur les véhicules. C'est pas la première fois ni la dernière que le classique lancer des œufs sur les véhicules vire au drame. Encore à New York, 4 ans avant, en 1994, deux incidents impliqués en mort d'homme se sont produits le même jour. Un garçon de 12 ans fut poignardé à mort par deux passants qui auraient reçu un œuf, et l'autre incident, lui, plus tard dans la soirée, impliqua un homme de 29 ans qui avait reçu lui aussi un œuf, puis a répliqué en lançant une bouteille à la gang de jeunes. Et puis plus tard, les jeunes sont revenus, puis il est armé d'un fusil de calibre 12 et le tua. Un autre cas un peu plus récent, celui-là c'est en 2010, à Columbus, Ohio. Danny Crawford et deux de ses amis s'adonnent à lancer des œufs sur les véhicules qui passent. Les trois s'amusent, passent du bon temps, jusqu'à temps qu'il y ait un œuf qui atteint un Jeep Cherokee. Le conducteur, qui a vraiment pas aimé ça, se met à poursuivre les trois jeunes, qui eux étaient à pied. C'est alors que le passager du Jeep sortit un fusil et tira quelques coups de feu. Et du même temps, tua le jeune Danny Crawford. Donc, si vous voulez mon avis, arrêtez de gaspiller de la nourriture. Ma troisième petite histoire se déroule à Chicago, West Englewood, le 31 octobre 2011. Maria Adams, une femme de 49 ans, est amenée d'urgence à l'hôpital John H. Todger dans un état critique. Elle fut traitée aux soins intensifs pour plusieurs blessures au couteau, mais malheureusement, Maria succombera de ses blessures 6 jours plus tard. La pauvre avait reçu une totalité de 28 blessures par arme blanche, et la majorité avait tous été portées au visage ou à la tête. Elle avait aussi subi de nombreuses blessures aux mains, signe qu'elle avait tenté de se défendre en bloquant les coups de couteau. Certaines blessures démontrent même que le tueur avait un couteau dans chaque main. Le tueur en question se nomme Little Peoples. Il aurait rencontré Maria Adams 4 ans avant les événements, soit en 2007. Et au fil des ans, il lui aurait donné beaucoup d'argent et des cadeaux en échange de faveurs sexuelles. Mais semble-t-il que depuis peu, quand Maria alla le visiter chez lui, des objets disparaissaient. Donc, le 31 octobre 2011, après une visite de Maria, Liddell se rendit compte qu'un de ses sacs de bonbons manquait à l'appel. Insulté et en beau fusil, il se rendit alors chez Maria qui habitait non loin de là. Rendu sur les lieux, il la confronta, mais Maria nia les accusations. Mais semble-t-il que Liddell retrouva son sac de bonbons dans le manteau de Maria. Ensuite, une violente dispute éclata. Liddell la poignarda alors de nombreuses fois, pour ensuite lui percuter violemment la tête au sol à 3 reprises. Après voyant qu'elle se ne défendait plus, Liddell croyait qu'elle simulait. Donc, il alla chercher un autre couteau à la cuisine pour ensuite lui donner de petits coups pour voir si elle bougeait encore. Après les faits, c'est Liddell People lui-même qui appelait les autorités, et il alla attendre calmement leur arrivée sur le perron de la résidence. Pour son crime, il s'est vu imposer une peine de 30 ans de prison. Tout ça pour un sac de bonbons. Mais je pense plus que ce gars-là, c'est un esti de fucké dans la tête, puis avec l'accumulation, ce fut la goutte d'eau de trop qui a fait déborder le vase de merde. T'aimes ça les maisons hantées, les places qui te donnent la chienne? J'ai eu la place idéale. Tu vas voir des trucs de fou, tu vas vivre des expériences que tu vas te souvenir toute ta vie. En plus, c'est bien plus qu'une simple maison hantée, je te parle ici d'une ville. La ville de Winnipeg. Ah, Winnipeg, avec plus de 700 000 habitants, ça en fait la ville la plus peuplée de la province du Manitoba, et c'est la 7e ville la plus habitée au Canada. J'ai pris une cote sur le site officiel de la ville, ça va comme suit.
On dit de Winnipeg que c'est le berceau culturel du Canada. La ville se distingue par ses artistes talentueux, son architecture remarquable, ses musiciens, ses athlètes renommés, ainsi que par ses festivals et ses événements culturels légendaires.
Sérieux, avec une description de même, fuck off Vancouver, je déménage à Winnipeg. En plus, croyez-moi ou pas, ce fut une des 20 destinations mondiales à visiter en 2016. Ça, c'est d'après la revue National Geographic, rien de moins. Tout ça aux côtés de Rio Grande, les Bermudes, et j'en passe. Sérieusement, on doit pas parler de la même ville que j'ai passé une couple de fois en traversant le Canada, puis que j'ai resté pogné pendant 4 jours. Parce que c'est pas pantoute de même que j'ai vu ça. Sérieux, Winnipeg, désolé, mais t'es à chier. C'est déprimant marcher dans tes rues. Et malheureusement, la ville vit avec un problème très grave de pauvreté. Plus de 25% des familles avec des enfants vivent sous le seuil de pauvreté. Ce qui, bien sûr, attire les drogues dures et la criminalité de toutes sortes. Le cristal meth a particulièrement empoisonné la ville. Les attaques avec armes à feu ont explosé depuis les dernières années, et la police saisit en moyenne une arme à feu par jour dans les rues de Winnipeg. Je vais vous le dire personnellement, j'ai arrêté quand même dans beaucoup de villes au Canada, puis c'est une des pires, je trouve. Personnellement, là, je vous le recommande pas du tout. Là, vous vous demandez comment que Winnipeg a pu se classer dans 20 destinations de National Geographic. Je vais vous le dire, c'est avec le Musée national des droits de l'homme. Je vois pas d'autres raisons logiques pour le choix de National Geographic, mais je tiens aussi à dire que la même année, Winnipeg a été classée la ville la plus raciste au Canada par la revue Maclean. En 2019, il y a eu 44 meurtres à Winnipeg. Ça en fait un triste record pour la ville. Pour vous donner une idée, en moyenne, il y a une quarantaine de meurtres qui se produisent à Montréal. Puis il y a pas mal plus de monde. Bon, là, vous vous dites, pourquoi tu nous parles de Winnipeg, Anoué? C'est quoi en lien avec l'Halloween? Ouais, c'est qu'en 2019, la saison de l'Halloween a été particulièrement sanglante. Et là, on va explorer quelques crimes qui ont été commis dans la semaine précédant l'Halloween. Bon, étant donné que ce sont des événements qui se sont déroulés il y a un an, la plupart des contrevenants n'ont pas reçu leur jugement. Et certains des événements n'ont pas gros de détails non plus. Bon, on va débuter ça avec un party d'Halloween qui se déroulait le 26 octobre. Après avoir reçu un appel aux urgences, les policiers se sont présentés au 100 Avenue Kinver aux alentours de 10h45 p.m. À leur arrivée, les policiers ont pu constater que deux personnes étaient grièvement blessées par arme blanche. Les victimes étaient Jakira Eastman Moore, âgée de 14 ans, et une jeune femme non identifiée de 18 ans. Étant les deux dans un état critique, ils seront transportés dans un hôpital. Les professionnels de la santé réussiront à stabiliser l'état de la jeune femme de 18 ans, mais malheureusement, ils n'ont rien pu faire pour sauver la jeune Jakira. Après avoir questionné des témoins qui étaient sur les lieux, les enquêteurs ont pu identifier deux suspects dans l'affaire. Une adolescente de 16 ans et une femme de 18 ans. Les deux sont mis en état d'arrestation et accusés de meurtre au second degré ainsi que de tentative de meurtre. Leur identité n'est pas divulguée dû au fait que l'une d'entre elles est d'âge mineur et que nous sommes au Canada. Mais d'après des textes qu'elles ont échangés après les événements, je peux vous dire, ça semble deux crises de folle qui ne regrettent rien ce qu'ils ont fait. Des textes du genre
« Ils ont toujours dit qu'on finirait morte ou en prison. »
Après, dans un appel qui fut enregistré, une des deux a dit
« Yo, qui parlait? Qui parle maintenant? Ils veulent être les prochains à crever? »
Puis dans une autre capsule d'écran, il y en a une des deux qui a écrit être fier d'avoir tué Jakira. Semble-t-il que l'attaque aurait commencé à la suite d'une altercation verbale. Quelques heures plus tard, soit le 27 octobre à 2h30 du matin, les policiers se sont déplacés dans une ruelle longeant Ross Avenue. En arrivant sur les lieux, ils découvriront deux hommes en état critique. Les deux hommes sont blessés par balles au haut du corps. Ils seront transportés d'urgence aux soins intensifs, mais les deux hommes succomberont suite à leurs blessures. L'identité des victimes est Edwin Adrian Harper, âgé de 32 ans, et Wayne Patrick Palidwar, 62 ans. C'est sûr que j'ai massacré son dernier nom. La mère d'Edwin déclara que son fils était chez elle et le soir de sa mort, il était simplement allé acheter des boissons gazeuses et qu'il n'est jamais revenu. J'ai fouillé pas mal sur les internets puis j'ai pas trouvé de nouveaux développements au dossier, donc... L'enquête est encore en cours, j'imagine. Le suivant, c'est encore le 27 octobre, mais cette fois, c'est à 3h15 de l'après-midi. Quand un homme non identifié s'est présenté à la porte d'une résidence au 400 Avenue Flora. Après avoir cogné à la porte, le suspect est entré dans le domicile et armé d'un fusil de calibre 12, il fit feu sur les occupants. Suite à son attaque, le suspect a fui les lieux. Quatre personnes furent atteintes par les projectiles, dont trois adultes et un enfant de 3 ans. Deux des adultes étaient dans un état critique, mais leur état a été stabilisé. Ouais, par une chance incroyable, tout le monde s'en est sorti vivant. Ça prend quand même un crise de psycho pour entrer dans une pièce puis faire feu à coups de 12 à bout portant. Le prochain, ça s'est produit le 30 octobre. J'ai oublié de marquer la ville, mais en tout cas, c'est un cas assez troublant. Le gars, c'est une crise de vidange. C'est Daniel Jensen, de 33 ans. Jensen était dans une relation assez tumultueuse avec Clarice Smith. Et 4 mois avant, Jensen avait été chargé d'assaut avec une arme et avoir proféré des menaces envers Clarice. Un interdit de contact lui avait alors été imposé. Il ne pouvait ni être en la présence ni communiquer avec Clarice. Mais l'interdit de contact semblait plutôt inutile car la veille de l'Halloween, les deux étaient ensemble dans un bar. Les deux ont eu une prise de tête et l'altercation détériora rapidement. Jensen agressa physiquement Clarice. Après l'avoir agressé, Jensen s'est rendu au domicile de Clarice, qui n'était non loin de là. Il entra sur les lieux pour ensuite poignarder le fils de Clarice à plusieurs reprises. Le fils de Clarice, qui était âgé alors de 3 ans, se nommait Hunter A. Strait Smith. Et semble-t-il qu'il dormait au moment des faits. Le jeune enfant, ayant subi des blessures très sérieuses, sera transporté aux soins intensifs. Jensen sera mis en état d'arrestation quelques heures après le drame. et des charges de tentative de meurtre et bris de condition seront levées contre lui. Malheureusement, ayant subi de graves lésions au cerveau, le jeune Hunter sera débranché des supports vitaux 3 jours après. Ensuite, les charges de Jensen seront changées en meurtre au second degré. Ça, je trouve ça cave. Le meurtre d'enfant, man, ça devrait être meurtre au premier degré, peu importe les circonstances. Ça implique que meurtre au second degré, s'il y a une bonne conduite en prison, il peut être en libération conditionnelle seulement après 10 ans. C'est carrément révoltant de penser à ça pareil. Là. Le prochain, c'est le matin de l'Halloween, à 10h AM. Les services d'urgence ont reçu un appel pour se rendre sur Saint-Matthews Avenue. Quand les premiers répondants sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé un homme grièvement blessé qui était à l'extérieur devant un bâtiment. L'homme non identifié sera alors transporté d'urgence aux soins intensifs. Mais malheureusement, ses blessures étaient très sérieuses et il fut prononcé mort peu de temps après son arrivée. Le lendemain, les enquêteurs purent identifier la victime qui était Matthew Allen Sutherland, âgé de 28 ans. Et tout ça dans la même journée, ils ont aussi arrêté un suspect qui se nomme Michael Alexander Spence, 32 ans. Les deux hommes se connaissaient et semblait-il que l'attaque au couteau aurait débuté dans une maison située sur St. Matthews Avenue. Et ensuite, la victime aurait quitté les lieux pour s'effondrer devant le bâtiment. Michael Spence est accusé de meurtre au second degré. Il est encore en attente de son procès. Ensuite, encore le 31 octobre, quelques heures plus tard, à 10h p.m., un feu est déclaré dans une résidence se situant au 506 rue Pritchard. Les services d'urgence se rendent rapidement sur les lieux. Et après un certain temps, les pompiers viendront à bout des flammes. Ensuite, un homme sera extirpé des débris encore fumants. Il sera transporté aux soins intensifs, mais il succombera suite à ses blessures le 5 novembre. L'homme sera identifié comme étant Douglas Wood, âgé de 41 ans. Après avoir inspecté les lieux, les enquêteurs ne seront même pas en mesure d'établir l'origine du feu, ni même de savoir si c'est un acte criminel, électrique ou un accident. L'enquête restera alors ouverte. Et le 17 décembre, une arrestation sera faite dans le dossier. Une jeune femme de 23 ans, Jenna Serena Kakegamik. Elle et la victime Danielle Woods étaient des connaissances. Et le soir du 31 octobre, après quelques consommations alcoolisées, une discussion enflammée a eu lieu. Sans vouloir faire de jeu de mots, après la confrontation, Jenna aurait allumé un feu et aurait laissé Douglas derrière. Les enquêteurs n'ont pas indiqué pourquoi Douglas n'a pas fui les lieux. Mais il était supposé qu'il était probablement endormi dû aux effets de l'alcool. Jenna Kakegamik s'est vue accusée de meurtre au second degré et incendie criminel. Elle est incarcérée et en attente de son procès. Même les pompiers l'ont pas eu facile la journée de l'Halloween. Ils ont dû intervenir dans 5 incendies. Le premier, une maison à 9h46 du matin. Tous les gens ont réussi à évacuer les lieux. Il y a eu une personne de blessée, mais son état était stable. Le deuxième, c'est celui de Douglas que je vous ai décrit un peu avant. Le troisième s'est déclaré à 11h dans la nuit, un silo en feu au sud de Winnipeg. 10 minutes après avoir rapatrié leur équipement, ils ont dû intervenir sur Roblin Road, dans un incendie résidentiel. Il n'y avait personne sur les lieux. Et le dernier s'est produit à 1h du matin, une maison de 2 étages sur Burroughs Avenue. Le seul occupant avait évacué les lieux avant l'arrivée des secours. Il n'était pas blessé. Bon, sur ce, j'espère que vous avez apprécié mon deuxième épisode pour le spécial Halloween. Si vous voulez supporter Mauvais Augure, vous pouvez le faire gratuitement en vous abonnant, partageant et commentant les épisodes. Et si vous voulez voir des photos reliées au dossier puis au cas que je présente, vous pouvez aller sur Instagram et Facebook, juste à chercher pour Mauvais Augure Podcast. Bientôt, je vais mettre ça à jour sur Twitter aussi. Sur ce, mes chers auditeurs, je vous dis portez-vous bien, amusez-vous en cette journée de l'Halloween, déguisez-vous, lâchez votre fou, mais soyez tout de même prudents. Le meurtre prémédité. De nombreuses recherches qui avaient été effectuées.
Le mobile du crime est toujours inconnu pour l'instant. Ha ha ha!